La ruée vers l'or dans la partie nord-ouest du Canada de la fin du 19e siècle a été la plus importante de toute l'histoire et fut décrite comme la dernière grande aventure avant l'ère moderne. Les prospecteurs ramassaient les pépites dans les petits ruisseaux qui s'écoulaient dans la rivière Klondike. Jusqu'à 100 000 personnes, surtout des hommes, participèrent à cette ruée frénétique, mais bien maîtrisée par la police montée canadienne. L'accès aux concessions était particulièrement difficile, mais tous ces gens acceptaient toutes les épreuves parce qu'ils espéraient s'enrichir. L'or qui brille a toujours exercé une grande attirance sur les hommes et l'idée d'en trouver attise toutes les passions. Pour l'être humain, l'or est le bien le plus précieux qu'il puisse posséder. Voilà sans doute pourquoi quelqu'un a dit « Étudier l'épître de Jude, c'est comme piocher dans la galerie d'une mine d'or à cause de toutes les pépites qui s'y trouvent. » Selon la perspective de la parole de Dieu, ce métal jaune qui suscite toutes les convoitises n'est pas une richesse qu'il faut acquérir coûte que coûte. Au contraire, les auteurs sacrés enseignent que les valeurs qui dans cette vie comptent vraiment sont tout autres. Le roi Salomon écrit « Acquiez la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. » Mais qui donne encore du crédit à ces paroles? Notre culture occidentale est fortement décadente parce que nos philosophes, écrivains, scientifiques et politiciens ont d'un même concert rejeté l'idée d'une vérité absolue et donc la plupart des repères moraux judéo-chrétiens pour les remplacer par des opinions personnelles et la sacro-sainte tolérance tous azimuts. Ce marasme idéologique teinté d'une sentimentalité enfantine désoriente même les croyants authentiques parce qu'ils ont bien du mal à faire la part des choses entre vérité et amour. Dans ce climat de confusion, l'argument éloquent de Jude en faveur de la pureté doctrinale tombe à point nommé. La vérité est une richesse précieuse selon la parole de Dieu et un concept important dans le livre de Jude. Les Écritures enseignent que le Créateur, l'Éternel, est le Dieu de vérité. Et ce qu'il dit est la parole de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu devenu homme, était grâce et vérité. Jésus s'est lui-même déclaré le chemin, la vérité et la vie. Et l'apôtre Paul écrit que la vérité est en lui. Si le Père et le Fils sont la vérité, il en est de même de la troisième personne de la Trinité qui est appelée l'Esprit de vérité. L'Église de Jésus-Christ est l'épicentre de la vérité et a pour devoir de la proclamer. Et c'est en croyant ce message que les êtres humains connaissent la vérité et le salut. Cette notion de vérité est omniprésente dans la lettre écrite par Jude parce que son objectif premier est de mettre les croyants du premier siècle en garde contre les mensonges et la fausse doctrine qui commençait à se répandre dans les assemblées chrétiennes. Il faut en effet savoir que s'il arrive aux enfants de Dieu d'oublier l'importance de la vérité, ce n'est jamais le cas du diable. Quand Lucifer s'est rebellé contre l'Éternel, il est devenu Satan, meurtrier et père du mensonge. Depuis, il fait tout son possible pour détruire, dissimuler ou déformer la vérité en cherchant à lui substituer la duplicité et l'imposture. Ses attaques les plus dangereuses ne proviennent pas des religions ou philosophies païennes qui foisonnaient au premier siècle, ni de ceux qui rejettent le Dieu unique et vrai ainsi que sa parole, car ceux-ci ne se cachent pas, ils sont en terrain découvert et donc visibles comme le nez au milieu de la figure. Par contre, il faut absolument débusquer les faussaires spirituels qui proclament haut et fort croire en la vérité, mais qui ont pour objectif de tromper. Ces émissaires du diable s'infiltrent discrètement dans l'église où ils se font passer pour de vrais bergers, alors que ce sont des traîtres, des apostats qui rejettent le Christ tout en prétendant être ses disciples. Ces gens sont mal intentionnés car, comme l'écrit l'apôtre Paul, ils ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Fin de citation. L'apôtre Pierre ajoute « Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. Ils sont tous sous la malédiction divine. » Les auteurs du Nouveau Testament mettent souvent les croyants en garde contre le danger que représentent ces faux enseignants. D'ailleurs, autant Jésus que l'apôtre Paul les compare à des loups féroces et les accuse l'un de se déguiser en agneau et l'autre d'être sans pitié pour le troupeau de Dieu. C'est dans un langage sans nuance et à l'emporte-pièce que, dans sa courte lettre, Jude condamne lui aussi les faux chrétiens, que ce soit ceux qui, à son époque, avaient déjà infiltré certaines églises, ou les imposteurs qui suivront après eux. Le Nouveau Testament mentionne sept hommes différents qui s'appellent Jude ou Judas et qui correspondent à l'hébreu Judas. Ce nom était extrêmement courant parmi les Juifs parce que deux personnages importants l'avaient porté. Le père de la tribu de Judas, dont est issu le roi David et le Seigneur Jésus, et deuxièmement, le héros de la révolte des prêtres Maccabées contre le souverain grec Antiochos IV Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ. De ces sept personnes, seuls deux sont associés à un homme appelé Jacques et pourraient convenir comme auteur de la lettre de Jude. En effet, il se présente comme frère de Jacques. Mais de quel Jacques s'agit-il? Comme seul son prénom est mentionné, il ne pouvait pas être un illustre inconnu, mais quelqu'un dont l'autorité était largement acceptée, en particulier par les destinataires de la lettre. Or, tel est bien le cas de Jacques, demi-frère du Seigneur, que l'apôtre Paul appelle l'une des colonnes de l'Église et qui était responsable de la communauté de Jérusalem. De plus, après le martyr de ce Jacques-là, il n'y avait plus dans l'Église primitive quelqu'un portant ce prénom, important et reconnu au point où on pouvait simplement l'appeler Jacques sans avoir à préciser davantage son identité. Parmi les sept hommes qui s'appellent Jude ou Judas, il y a un Jude qui était apôtre de Jésus et qui est aussi appelé Thaddée. Il aurait pu être l'auteur de la lettre qui porte son nom, mais il est dit « fils de Jacques » et non pas « frère ». De plus, ce Jude qui était apôtre n'aurait certainement pas manqué de se présenter comme tel afin d'afficher son autorité et donc la crédibilité de sa lettre. Cet homme ne pouvant convenir, il ne reste plus que le Jude qui était le demi-frère du Seigneur et qui dans sa lettre se différencie des apôtres, disant indirectement qu'il n'était pas l'un d'eux. Par contre, et même s'il n'est pas cité, il faisait probablement partie du groupe qui, avec les apôtres, constituait le noyau des 120 disciples qui se réunissaient régulièrement à Jérusalem pour prier. Il faut en effet savoir que les frères de Jésus, nés de Joseph et Marie après lui, étaient incrédules pendant son ministère. Mais ils crurent en lui en tant que Seigneur, au plus tard, après l'avoir vu ressuscité. Comme toujours, et pour à peu près tous les écrits de l'Ancien comme du Nouveau Testament, Il y a des sceptiques, des empêcheurs de tourner en rond qui cherchent la petite bête. C'est ainsi que certains théologiens disent que le Jude qui a écrit la lettre qui porte son nom n'existe pas, que c'est un pseudonyme pour un auteur inconnu paru à la fin du premier siècle ou au second, et qu'il se cache derrière Jude et Jacques, les frères de Jésus. Mais un tel babillage n'a aucun sens, car quel serait l'intérêt de mentionner Jude, un personnage relativement peu connu, et qui, s'il n'avait pas écrit la lettre qui porte son nom, ne ferait pour ainsi dire pas parler de lui dans le Nouveau Testament. Un auteur imaginaire n'aurait pas mentionné Jude, mais se serait abrité derrière Jacques, qui lui était un personnage prestigieux et réputé. Et si la lettre avait été écrite par un plagiaire voulant se faire passer pour Jude, il n'aurait certainement pas manqué de se présenter comme le frère du Seigneur, ce que le vrai Jude n'a pas fait. D'autres critiques incrédules disent que le langage de l'épître est trop recherché pour convenir à un simple paysan de la Galilée. Toutefois, cette région était proche de la décapole non-juive qui était située au sud-est de la mer de Galilée, et on y parlait couramment le grec. Par conséquent, les spéculations fumeuses concernant la qualité du grec de Jude n'ont aucune valeur. Et puis, il est tout à fait possible que Jude ait employé les services d'un copiste, comme Pierre l'a fait, pour écrire sa première épître. Tout ça pour dire que l'épître de Jude a bel et bien été écrite par le frère de Jacques et que ces deux hommes sont demi-frères du Seigneur. Une lecture, même rapide, de cette courte lettre, ainsi que de la seconde épître de Pierre, révèle la présence de nombreuses similitudes entre elles. En fait, 19 des 25 versets de la lettre de Jude font un parallèle avec la seconde épître de Pierre. De plus, le mot grec traduit par « moqueur » n'est utilisé que par Jude et Pierre dans les passages que j'ai cités. On peut donc se demander qui s'est inspiré de qui ou encore quelle est la source que ces deux auteurs sacrés ont utilisée. On peut déjà dire que si ces deux écrits sont similaires, c'est parce qu'ils combattent la même hérésie, un syncrétisme d'idées païennes, juives et chrétiennes, précurseur de ce qui au second siècle s'appellera le gnosticisme, un méli-mélo religieux constitué d'erreurs doctrinales, mais qui débouche aussi sur des conduites immorales et pernicieuses. Cela dit, et deuxièmement, il semble bien que ce soit Pierre qui ait écrit le premier, car il prédit que dans l'avenir, de faux enseignants paraîtront, tandis que Jude les dit déjà bien présent dans l'Église. En effet, l'apôtre Pierre prophétise que pendant les derniers jours, des moqueurs viendront avec raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Or, Jude confirme cette prédiction comme se réalisant à son époque, puisqu'il écrit « Souvenez-vous des paroles qui ont été dites ci-devant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ » qu'il vous disait « Au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur propre convoitise impie. » Comme il n'y a pas dans les Écritures une autre prophétie que celle de Pierre à laquelle Jude puisse faire allusion, c'est bien Pierre qui a écrit le premier. Il est vrai que Jude parle des apôtres au pluriel, alors qu'il se réfère à Pierre, mais c'est parce que Paul aussi a fait des prédictions similaires. Pour ce qui est de la date de la lettre écrite par Jude, le frère du Seigneur, rien n'indique précisément quand elle fut rédigée. Cependant, quand Jude dit « Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit », il laisse entendre que ses lecteurs ont connu certains des apôtres, si bien que ces derniers ne pouvaient pas être morts depuis longtemps. Le fait qu'il se distingue du groupe des apôtres peut seulement dire qu'il n'en faisait pas partie, et s'il présente la foi chrétienne comme ayant été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu, cette façon de s'exprimer n'implique pas que, chronologiquement, Jude se situe après la période historique des apôtres. Cette exhortation, qu'il adresse à ses lecteurs de rester fidèles à une vérité, à un message reçu et transmis, se trouve également dans les épîtres de l'apôtre Paul. Comme Jude ne mentionne pas la destruction de Jérusalem pour illustrer le jugement de Dieu contre les impies, c'est qu'il a écrit sa lettre avant cet événement. Par conséquent, la date de la rédaction de sa lettre se situe entre la mort de Pierre et la destruction de Jérusalem, entre les années 68 et 70 de notre ère. Nous ne connaissons pas les destinataires de la lettre. Cependant, comme Jude choisit des illustrations tirées de l'Ancien Testament et des écrits apocryphes juifs, on peut être sûr qu'il s'adresse à des croyants juifs. Cette petite épître de Jude semble avoir été rapidement considérée comme inspirée de Dieu et donc acceptée par les chrétiens de la fin du premier siècle. En effet, les spécialistes pensent avoir discerné des allusions à cette lettre dans plusieurs écrits d'auteurs chrétiens comme la Didache, l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome, l'épître de Barnabé, le berger d'Hermas et l'épître aux Philippiens de Polycarpe, qui, soit dit en passant, était disciple de l'apôtre Jean. Mais ces allusions ne suffisent pas pour être concluantes. Par contre, la preuve devient irréfutable vers la fin du second siècle. À cette époque, la lettre de Jude est citée dans la liste des livres du Nouveau Testament qui porte le nom de Canon de Muratori. Toujours à la fin du second siècle, un philosophe et apologiste chrétien qui fut aussi l'un des premiers docteurs de l'Église d'Alexandrie a utilisé l'épître de Jude pour défendre le christianisme dans une lettre qu'il a adressée à Marc Aurèle, quand il était empereur. Clément d'Alexandrie, père de l'Église entre la fin du second siècle et le début du troisième, cite l'épître de Jude plusieurs fois dans ses écrits. Tertullien, contemporain de Clément d'Alexandrie, dit qu'il considère la lettre de Jude comme canonique. Même chose pour Origène, élève de Clément d'Alexandrie, qui la cite souvent. Au IIIe siècle de notre ère, l'épître de Jude est inclus dans un document, un papyrus, ce qui montre que l'Église la considérait comme faisant partie du canon des livres inspirés du Nouveau Testament. Au IVe siècle, l'historien Eusèbe a rangé l'épître de Jude parmi les livres dont l'authenticité était mise en doute par certains, bien que, dit-il, elle soit acceptée comme inspirée par la plupart des croyants. Un peu plus tard, toujours au IVe siècle, Didyme l'aveugle, qui était le proviseur de l'école de formation chrétienne d'Alexandrie, prit la défense de l'authenticité de l'épître de Jude contre ses détracteurs. Il est tout à fait compréhensible que des doutes planaient encore sur l'inspiration de cette lettre, à cause des passages de livres apocryphes juifs qu'elle contient. Il faut dire que ces citations décoiffent. La première fois qu'on les lit, on se demande ce qu'elles font ici dans un livre du Nouveau Testament. Cependant, le fait que Jude ait mentionné une portion de ses ouvrages ne signifie pas qu'il souscrivait à tout leur contenu. Paul a cité des poètes grecs, et fait allusion à la tradition juive extra-biblique, et pourtant il n'adhérait manifestement pas à tout ce qui était écrit dans ses ouvrages, pas plus qu'il ne les considérait comme faisant partie de l'écriture inspirée de Dieu. À l'instar de Paul, Jude cite des histoires connues pour étayer son argumentation, ce qui ne veut pas dire qu'il considérait ces livres divinement inspirés. Malgré tout, d'une manière générale, l'Église du IVe siècle acceptait l'Épître de Jude, ce que prouvent les témoignages d'Athanase, évêque d'Alexandrie, du Concile de Laodicée, de Cyrille, évêque de Jérusalem, de Grégoire de Nazianze, père de l'Église d'Orient, et de Jérôme, le traducteur des Écritures en latin. Mis à part cette lettre écrite par Jude, nous possédons très peu d'informations sur lui. L'apôtre Paul mentionne qu'il était marié, qu'il exerçait un ministère itinérant à titre d'évangéliste. Selon l'historien Eusèbe, parce que les petits-fils de Jude étaient de la lignée royale de David, l'empereur romain Domitien mit en cause leur loyauté et les obligèrent à comparaître devant lui. Mais quand il apprit qu'ils étaient de simples paysans, il les renvoya avec mépris. À part ce fait divers, la tradition garde le silence sur Jude.